Pour nous écouter dans le monde entier, c'est facile avec Internet. Vous tapez www.radiookapi.net. Radio Okapi, quand vous voulez, où vous voulez.
Voilà, il peut arriver qu'un petit enfant développe une otite. Ce mal d'oreille est particulièrement douloureux. Si vous pensez que votre enfant est atteint d'une otite, n'attendez pas et consultez votre médecin. Une otite qui n'a pas été prise en compte suffisamment tôt peut avoir des conséquences graves. Comment prévenir les otites à répétition chez vos enfants ou quels sont les signes de ce mal d'oreille? Docteur Luc Amanga est là pour répondre à vos préoccupations. Bonjour docteur.
Bonjour Marcel.
Voilà, vous êtes pédiatre à la clinique Gallimard. Nous parlons des otites chez les tout-petits. Si vous pouvez nous dire, c'est quoi l'otite?
Eh bien, l'otite peut se définir comme étant une inflammation muqueuse et des structures qui composent l'oreille. Vous savez que l'oreille est un organe qui est composé de trois parties. Il y a l'oreille externe, qui est constituée par le pavillon d'oreille, le conduit auditif. Il y a l'oreille interne, qui est constituée par la membrane du tympan, avec les osselets à l'intérieur, c'est-à-dire le marteau, la plume et l'étrier.
Oui.
Il y a l'oreille interne, qui lui est constituée de l'organe qui préside à l'équilibre et à la perception des sons. Alors, l'une de ces trois parties peut être affectée par un microbe, ça peut être un... bactéries, le plus souvent c'est ça.
Oui.
Ça peut également être un virus, tout comme ça peut être un champignon. Ça peut également être une substance qui peut amener donc ces structures à s'inflammer, c'est ce qu'on appelle l'otite. Donc il faudra distinguer les otites externes, les moyennes et les otites internes. Voilà un peu ce qu'on appelle l'otite.
Voilà.
Et il faut ajouter que les microbes les plus rencontrés à ce niveau-là, en fonction de l'âge de l'enfant. Très souvent, vous rencontrez le microbe qu'on appelle l'hémophilique infectieux. Il y a aussi le pneumocoque. Il y a d'autres microbes qui peuvent s'associer, notamment le catarrhalite gravis et le staphylocoque aureus, ainsi que le pseudomonas aeruginosa. Voilà les microbes qu'on rencontre le plus souvent. Mais comme je vous ai dit, il peut s'agir d'autres types de microbes. D'autres familles de microbes. Voilà.
Et alors, docteur Kamanga, cette otite atteint souvent les enfants de quel âge?
Bon, l'otite peut affecter les enfants de tous les âges, mais la fréquence est plus importante chez les enfants en dessous de 6 ans. Et encore plus importante, les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans. Chez ceux-là, vous avez les otites les plus fréquentes. Parce que, à 3 ans par exemple, 80% d'enfants ont déjà contracté l'otite. Ils peuvent avoir fait un épisode, ou plusieurs épisodes, mais en tout cas 80% d'entre eux ont déjà contracté. Alors vous comprenez, la fréquence est très importante. Eu égard aux multiples infections qui affectent le système ORL, donc l'orino-laryngologie, avec les pharyngites, angines, sérumes. Et donc, comme elles sont vraiment fréquentes pendant cette période, eh bien, l'otite fait également les frais. Il y a une raison pertinente, parce que la trompe de Stache, qui conduit en fait la cavité de l'arrière-gorge, l'oreille chez les enfants, a une anatomie particulière, elle est plus horizontale par rapport à l'adulte, où elle est un peu oblique. Et puis, vous savez que les enfants sont des personnes dont l'immunité n'est pas encore totalement constituée.
Oui.
Les raisons font qu'ils sont plus affectés que les autres. Et on peut rencontrer aussi des otites chez les grands enfants, et même chez les adultes. Hein.
Mm-hmm.
Particulièrement dans les cas de dépression immunitaire, très souvent, vous avez des otites.
Voilà, docteur Akamanga. Alors, comment se manifeste généralement l'otite chez les enfants?
L'otite peut se manifester par plusieurs signes. Hein. Ce signe le plus important que l'on peut rencontrer, c'est la douleur. Donc, la douleur à l'oreille, vous voyez cet enfant qui se tasse, qui devient grognon, pleurniche, manque d'appétit, il fait de la fièvre, mais c'est pas constant la fièvre. Alors, il faut bien se mettre le puce à l'oreille et consulter le pédiatre ou l'oreilliste qui va éventuellement mettre la main sur une otite. Bon, sur le plan clinique, lorsque nous abordons un examen pour déceler une otite éventuelle, il y a d'abord l'examen externe, clinique, que nous allons faire en baissant le tragus, c'est-à-dire au niveau du pavillon de l'oreille, il y a une élévure que nous appelons le tragus. Lorsque nous pressons sur ce tragus, observer une douleur chez l'enfant, nous disons qu'il y a éventuellement une otite. Et cet examen est complété par l'otoscopie. On va utiliser un appareil qu'on appelle l'otoscope pour voir d'abord le conduit et voir également la structure de la membrane tympanique qui est la plus affectée dans ce domaine-là. Là, ça va vous donner des indications sur la présence ou non d'une otite. Et on peut expliquer également quels sont les signes que l'on voit sur le tympan pour dire qu'il y a otite.
Oui.
Alors, sur la membrane du tympan, il y a en fait la structure qui sépare l'oreille externe de l'oreille interne, qui est normalement de couleur 4. Vous verrez que cette membrane du tympan peut changer de couleur, peut devenir plus ou moins rouge.
Mm-hmm.
On appelle la phase congestive, parce que ça évolue en phase.
Elle est
congestive, donc elle est tout à fait rouge, ça veut dire que il y a déjà une inflammation à ce niveau-là. Plus tard, elle peut devenir bombante, c'est-à-dire à cause de la pression à l'intérieur de l'oreille, donc dans l'oreille moyenne, pression exercée par la présence du pus, par exemple, cette membrane de tympan peut être bombante, et donc il y a déjà une otite structurée. Et la troisième phase, ça peut être que, à cause de cette pression, la membrane se fissure et il y a suppuration, donc il y a sortie pude à l'extérieur, ce qu'on appelle l'autorée purulente. Donc, ça c'est pas normal.
Alors, docteur, est-ce qu'il
peut voir le pus à l'extérieur de l'oreille?
Oui. Est-ce qu'une otite peut conduire à des graves dégradations des tympans et entraîner des pertes d'audition?
Ah oui, les otites sont très dangereuses parce qu'elles peuvent avoir beaucoup de conséquences, hein, la surdité notamment. Il y a la surdité de transmission qui peut être une conséquence de l'otite, moyenne notamment. La surdité de perception lorsque l'oreille interne, là où il y a le labyrinthe, est affectée. Vous pouvez vraiment avoir une surdité de perception.
Oui.
Mais il n'y a pas que ça, il y a des conséquences plus graves. L'otite peut conduire notamment à des ascites au niveau du cerveau. Ça peut également conduire à des ascites sous-arachnoïdiens, c'est-à-dire pour des enveloppes du cerveau. Et même avoir une méningite, c'est d'ailleurs une des conséquences les plus redoutées quand un enfant fait l'otite. Mais ce n'est pas tout. Avec l'otite, on peut également assister à une paralysie faciale.
Mm-hmm.
Parce que le nerf facial, dans le passage anatomique, c'est de l'oreille. Donc il y a plein de conséquences qu'on peut avoir. Je n'en ai cité que quelques-unes.
Voilà. Alors, nous avons en ligne M. Muyumba qui nous appelle depuis Calémi. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui, quelle est votre préoccupation?
Ma préoccupation, je voudrais savoir si le docteur peut me donner un peu la différence qui est là pour ce qui concerne les signes. Parce qu'un enfant qui souffre d'une sinusite, un enfant qui souffre d'une otite, un enfant qui souffre de la méningite, parce que les tous nous voyons que ce sont des inflammations. Est-ce qu'il va un peu nous donner les signes qui peuvent distinguer ces trois maladies?
Voilà, docteur Kamanga.
Je n'ai pas perçu la troisième maladie qu'il a citée, donc il a parlé de sinusite, il a parlé de sinusite.
Mais il a parlé de sinusite, méningite et de l'otite.
Bon, je vais expliquer à notre compatriote que ce sont des maladies, des entités nosologiques, comme nous disons en jargon médical. Ça fait différent. Une sinusite est aussi une inflammation, mais elle n'intéresse pas l'oreille. La sinusite intéresse les cavités sinusales. Les sinus, en fait, ce sont des cavités, comme on le dit, qui peuvent être situées au niveau du front. À ce moment-là, les signes principaux, ça sera céphalée, une des céphalées frontales. Donc, le patient aura mal à la tête et surtout au niveau du front. Ça peut être des sinusites maxillaires. Ça peut également être des sinusites situées à d'autres endroits. Donc, là, partout, il y a des cavités plombant les os. Donc, ça peut être La méningite, comme je viens de dire tout à l'heure, c'est l'inflammation des enveloppes du cerveau. Vous savez que le cerveau est bien protégé. Il y a des enveloppes qui sont directement accolées au cerveau. Et entre ces enveloppes, il y a généralement du liquide aussi, ce qu'on appelle le liquide céphalo-rachidien, qui est également là-bas. Ça font partie, en fait, de la protection du cerveau avant d'atteindre le crâne, en fait, l'os, hein, qui protège fermement.
Mmh.
Alors, ces enveloppes-là peuvent être l'objet d'une inflammation, comme une infection. Et le liquide qui est là-dedans également, ça a infecté, ce qu'on appelle la méningite. Ça fait des choses tout à fait différentes.
Voilà.
On veut bien la méningite, pour la reconnaître, c'est d'abord la fièvre, l'enfant qui va faire toute fièvre. Et puis progressivement, vous verrez que c'est un enfant qui peut développer des convulsions. Il peut même entrer en coma. Les grands enfants, il aura le temps de vous dire, par exemple, que bon, il a des maux de tête qui n'arrêtent pas, il a des fièvres, il a une fatigabilité, il a une somnolence. Et donc ça, ce sont des signes évocateurs du maladie. Quand vous examinez cet enfant, vous verrez que sa nuque est raide. On ne peut pas facilement déchirer sa nuque sur le front.
Oui.
Ce qu'on appelle la raideur de la nuque. Il y a d'autres signes, notamment le
voilà, docteur.
Oui,
docteur Kamanga, nous avons une autre intervention que j'ai depuis Calémie. Avant de recueillir sa question, nous allons juste rappeler le numéro de contact, c'est le 081 890 63 94.
Vous êtes au centre de toutes les questions. Ils sont la solution possible à vos problèmes. Radio Okapi est ici avec vous sur la solution. En direct avec toute l'équipe de Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs. Parler, nous transmettons. Proposer, nous discutons. Parole aux auditeurs, de lundi à vendredi dès 11h et mercredi à 10h, heure de Kinshasa. Prenez la parole et nous vous écoutons. C'est sur Radio Okapi.
Voilà, nous parlons aujourd'hui de l'otite chez les enfants, comment prévenir ce mal d'oreille, que j'ai en ligne depuis Calémie. Bonjour.
Bonjour.
Oui, quelle est votre préoccupation?
Alors, je pense bien, l'émission tombe très bien parce que avant-hier, j'ai un enfant de 2 ans.
Oui.
Alors, c'était vers minuit. De minuit vers 4h du matin, l'enfant ne dormait pas. L'enfant pleurait. Alors, comme on ne sait pas beaucoup de choses concernant le mal d'oreille, nous sommes allés voir un voisin.
Mmh.
Le voisin nous dira, il faut mettre l'huile qu'on utilise à la machine à coudre.
Mmh.
Hein? Machine à coudre.
Oui.
Alors, il nous a donné aussi une autre proposition de prendre la poire, hein, poire des enfants, et de faire de l'eau chaude et de pomper sur l'oreille de l'enfant. Alors, nous avons essayé, parce que c'était la nuit, on n'a pas eu le temps de pouvoir d'acheter l'huile de la machine à coudre. Alors, on a essayé avec la poire et on a pompé sur l'oreille de l'enfant. Et le matin, l'enfant s'est réveillé, hein, un peu en forme. Est-ce que je veux dire au docteur, est-il permis seulement, parce que moi je craignais, quand un enfant souffre dans des heures comme ça, vous n'avez rien à lui donner, est-ce que faut-il seulement lui mettre de l'huile de quoi? De la machine à coudre. Hein? Avant de voir le médecin.
Voilà, merci beaucoup.
C'est ça ma question.
Merci monsieur Kégé. Docteur Kamanga.
Oui, monsieur Kégé. C'est une chose à déconseiller formellement. Dans l'oreille, ne peut entrer pas n'importe quoi, surtout pas l'huile
de la machine à coudre. Oui.
Du pétrole, de l'essence, tout ce qui est sans son approprié, des huiles, n'était pas dans les oreilles. Je peux vous dire, en attendant, que il suffit par exemple que vous mettiez 2 gouttes de pétrole dans l'oreille de votre enfant pour que celui-ci soit faible. Il va mourir dans les temps qui suivent, donc il faut éviter formellement. Encore moins prendre une poire et pomper de l'eau, fût-elle chaude ou froide. Je pense que l'attitude qu'il faut adopter, c'est de voir un médecin va déterminer l'origine du mal. Normalement, effectivement, quand l'enfant pleure comme ça et que vous n'avez pas de lésion à l'extérieur, il faut penser à une otite. Et ça peut également être tout simplement un bouchon au niveau du périnée. Ce bouchon peut faire pleurer également les enfants, ça s'appelle le bouchon de périnée. Donc, il n'y a qu'un examen otoscopique qui peut déterminer s'il s'agit effectivement d'une otite et de quel otite, externe, moyenne ou interne. Ou il s'agit d'autre chose. Donc, l'attitude qu'il faut adopter si vous avez un enfant qui dans ces conditions-là, c'est de lui donner paracétamol. Vous lui donnez paracétamol à cette nuit-là si vous l'avez à la portée de la main, ou de l'aspirine pour le calmer. Donc, le matin, vous consultez le médecin. Ne mettez pas des huiles, ne mettez pas des eaux, surtout de poire, de l'eau chaude. Ça, c'est, il n'y a qu'à l'hôpital qu'on peut faire ce genre de choses.
Voilà, il n'y a qu'à l'hôpital, oui. Voilà, mais et une maman à la maison, comment elle, quels sont les signes qui peuvent l'aider à reconnaître que l'enfant souffre de l'otite?
Bon, il y a d'abord, comme je vous l'ai dit, la présence de la fièvre. Mais j'ai dit que la fièvre n'est pas constante. Alors, cet enfant devient mal à l'aise, il est dornichard, il est grognon, il perd son appétit, pour sa retraite. Mais surtout, et ça arrive très souvent la nuit, comme c'est le cas avec notre compatriote de tout à l'heure, les enfants qui pleurent de façon incessante, surtout la nuit, la deuxième partie de la nuit, alors dites-vous bien qu'il y a possibilité, il y a beaucoup de chances que ce soit une otite. Donc, tous ces éléments vont vous faire penser donc, à consulter un service d'ORL ou consulter un pédiatre. Et en plus, si cet enfant a un rhume, où il a une pharyngite, où il a une angine, un enfant qui vomit, ça c'est un signe qu'on pense à une otite. La maman doit être averti par rapport à ça et voir rapidement le pédiatre ou le médecin du coin pour donner les soins appropriés.
Alors, docteur Kamanga, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir l'otite chez les enfants? Certains disent qu'il est déconseillé, de s'abstenir de fumer près de l'enfant et de maintenir l'air propre et sain.
Ah oui, ça c'est exact. Hein. Nous avons expliqué, l'otite peut avoir plusieurs origines. Et pour prévenir ces otites, effectivement, il faut éviter de fumer auprès des enfants. Éviter également les maisons de fumée. Il faut éviter de baigner l'enfant dans des eaux sales. Il faut éviter de donner le biberon à l'enfant en position couchée, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec l'anatomie de sa trompe de Stache, tout de suite, en donnant le biberon dans cette position, le lait peut aller jusqu'au niveau des oreilles et provoquer le tabac. Il faut éviter les sucettes. C'est cette pétine qu'on laisse en permanence dans la bouche de l'enfant et ça a des conséquences. Hein.
Oui.
C'est quelque chose qu'il faut éviter. Et bien sûr, lorsque l'enfant attrape un rhume ou un rhume tout, ou bien que la suite logique peut être l'atteinte de l'oreille. Donc, il faut faire soigner ça rapidement.
Oui.
Pour ce qui est du rhume, vous savez, la solution psychologique est vendue à partout. Moins cher, vous mettez dans la narine de l'enfant, il faut en mettre suffisamment beaucoup, 5-6 gouttes chaque fois, plusieurs fois par jour, ça va permettre de rincer les cavités nasales et donc éviter que les microbes qui ont été domiciliés, mais aussi passagers, pour atteindre les autres sites. Parce que, comme vous le savez, en otorhinolaryngologie, le nez, l'arrière-gauche et les oreilles, ça fait un tout. Et lorsque l'une des structures est atteinte, les autres aussi sont par des conséquences.
Oui.
Voilà un peu les quelques précautions qu'il faut prendre pour éviter les autres.
Et docteur, que dire des enfants qui sucent le pouce? Est-ce que ça peut être un comportement qui peut conduire plus tard à développer une otite?
Exactement, hein, le pouce peut être lié à la sucette. Hein. C'est d'avoir tout le temps le pouce à sa bouche ou la sucine, trouver la sucette en permanence dans la bouche, il y a beaucoup de sites qui peuvent est expliqué par donc ça c'est aussi quelque chose à combattre. Je pousse en dehors des conséquences, si vous voulez, de créer un enfant qui a un déficit, il y a cette possibilité de faire ce et donc il faudrait combattre parce que c'est rien pour cet enfant ne continue pas.
Oui, docteur Kamanga, on vous reçoit pas très très bien. Si c'est possible de vous déplacer un tout petit peu, ça pourra peut-être améliorer la qualité de la communication.
Oui, je sors de mon bureau, je vais à l'extérieur.
La course relais de l'information sportive, c'est sur Radio Okapi. Nanambala, au démarrage, passe le relais à Dieudonné Kabeyanga Lula qui fonce vers le micro et le passe à Kanis Mukongo Chambouli. Il fonce et se trouve en tête à la sortie du virage où Christian Moulumba l'attend. Les 100 derniers mètres sont parcourus sans encombre et... Victoire! Les 400 mètres relais de la formation sportive, c'est tous les dimanches à partir de 15h, heure de Kinshasa.
Voilà, nous avons en ligne deux auditeurs, Evelyne depuis Kinshasa et Victor à Kindu. Evelyne, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui, on vous écoute.
Ouais, ma préoccupation est celle-ci. J'ai ma fille qui souffre de l'otite depuis l'âge de 2 ans, 3 mois.
Oui.
Jusqu'à présent, je n'ai jamais remarqué une amélioration. C'était juste après la rougeole, puis un rhume, la chronique, hein. Et ma préoccupation est que le docteur puisse me dire comment mieux soigner l'autisme, parce que tout ce qu'on donne comme remède, apparemment, je trouve que ça ne tient pas. On a fait de radio, on a fait des échos et tout, on a nettoyé avec des produits, des alcools boriqués et tout, des antibiotiques, mais l'enfant aujourd'hui aura 15 ans au mois de juin. Ça se répète à chaque fois. Quand il fait froid, pendant la saison sèche, ça revient. Pendant la saison de pluie, est-ce que il y a un remède, un traitement d'appoint que le docteur pourra me donner pour que je puisse soigner mon enfant, parce que à chaque fois ça revient. Elle ne sucait pas la peau, le doigt, elle ne veut pas une toux, je sais pas.
Oui. Merci Evelyne. Docteur Luc.
Bon, il faut dire que je n'ai pas bien perçu le devis de question.
Oui.
Depuis que je me suis déplacé du bureau, c'est moi qui entends mal maintenant. Alors, si c'est bon.
Voilà, Madame Evelyne, elle parlait de son enfant qui aura bientôt 15 ans et qui développe l'otite à répétition. Et ils ont essayé plusieurs traitements, mais ça n'a toujours pas marché. Et cela a commencé après que l'enfant a eu la rougeole. Et il semble que l'enfant a un rhume chronique. Et voilà, donc, c'est une otite à répétition. Ils ont essayé toutes sortes de traitements, mais apparemment, ça marche toujours pas.
Ah oui, ce que je peux dire à notre sœur, c'est que les otites chroniques, au-delà des conséquences qu'elles peuvent avoir par rapport aux structures avoisinantes, sont en quelque sorte une maladie gênante. Parce que si l'enfant a continuellement une otite, faisons qu'elle suppure, cette otite va sortir du puits qui sent mauvais, donc ça fait mauvais pour l'entourage. Il a un rhume qui n'arrête pas, donc c'est un enfant qui sera toujours mal à l'aise dans la société. Je pense que si on a essayé le traitement empirique, comme elle le dit, le traitement avec tous les antibiotiques, avec la sulfurité, tout ce qu'on a dit, c'est mieux de voir un oreilliste qui va vous déterminer pourquoi cet otite est chronique. Au-delà des examens d'ORL, il y a d'autres examens systémiques, systématiques, que l'on peut faire. Vous décelez, par exemple, au niveau de l'immunité de cet enfant, si les choses sont en place, parce que le défaut d'immunité peut également faire que les otites reviennent tout le temps. Donc il faut un examen plus élargi, aussi bien ORL que médical, donc tout à fait de tous les autres systèmes pour déceler. Et c'est confié à un spécialiste en otorhinolaryngologie pour un traitement définitif. Voilà ce que je pouvais dire à ce niveau.
Voilà, Victor nous appelle depuis Kindu, bonjour.
Oui, je suis ici.
On vous écoute, Victor.
Bonjour.
Oui, on vous écoute, bonjour Victor, on vous écoute.
Mon question, c'est ici.
Oui.
Mon question, c'est ici.
Oui, allez-y.
D'où vient-il ces maladies de kystes?
D'où vient l'otite, docteur Kamanga?
D'où vient l'otite? Comme nous avons dit, l'otite, c'est une inflammation qui est provoquée par des microbes. Donc, ce sont les microbes qui amènent l'otite, les microbes qui entrent au niveau des structures de l'oreille. Ce sont ces microbes-là qui provoquent l'otite. Et nous avons dit que ces microbes, c'est généralement l'hémophilus influenzae, le pneumocoque, et il y a d'autres, notamment le staphylocoque aureus, le pseudomonas aeruginosa. Ces microbes se trouvent dans la nature, donc ils existent comme vous et moi dans la nature, et si l'individu se trouve dans des conditions telles qu'il peut être en contact avec ces microbes, eh bien, ça provoque l'otite. C'est ça l'origine. Il n'y en a pas d'autres.
Voilà. Pour terminer, docteur Kamanga, rapidement, si on peut rappeler les comment prévenir, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir l'otite chez les enfants?
Alors, pour prévenir, en gros, il faut d'abord une bonne hygiène.
Oui.
L'enfant doit rester dans les milieux suffisamment propres et il doit se baigner dans de l'eau propre. L'enfant qui est au biberon, il faut éviter de lui donner le biberon en position couchée. L'enfant qui a un rhume, il faut soigner rapidement ce rhume. L'enfant qui tousse et qui a une angine, il faut rapidement voir le médecin pour soigner ces pathologies-là, parce que c'est en fait toutes ces pathologies qui sont à l'origine de ces otites-là, dont les conséquences sont fâcheuses, notamment la surdité. Nous avons parlé de la surdité de perception, de la surdité de transmission, qui peut être, ça peut avoir des conséquences plus graves, notamment de méningite. Donc, de manière générale, garder une hygiène régulière au niveau de tout le corps, et particulièrement au niveau de la sphère ORL, en évitant tout ce que nous avons évoqué tout à l'heure.
Merci, docteur Luc Tamanga, pédiatre à la clinique Ngalima. À la prochaine.
Merci, Marcel. Au capi.